débat politique, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous, car Dialogue entre Congolais, ce sont aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h, et sur Internet, sur www.radiookapi.net.
Les cas de naufrage des bateaux et autres embarcations sont fréquents à travers le pays. Souvent, le bilan est dramatique. On dénombre plusieurs morts et juste quelques rescapés. On attribue souvent la cause de ces chavirements à la surcharge. Les armateurs, assoiffés d'argent, ne respectent pas la limitation des tonnages, mettant ainsi en péril la vie de plusieurs personnes. Alors, comment prévenir ces genres de situations? Monsieur Gabriel Mokango est directeur technique à la régie des voies fluviales. Monsieur Gabriel, vous êtes au courant qu'il y a eu plusieurs cas de naufrage enregistrés à travers le pays, surtout au mois de décembre.
Oui, comme vous le dites si bien, vers le mois de décembre, on a connu le plus périlleux cas de naufrage sur le lac Tanganyika et sur le fleuve Congo au niveau de Isangi.
Et sur le lac Tanganyika, il y a eu autour de 129 morts.
C'est ce qui est avancé comme chiffre. Bon, je ne connais pas encore le résultat de l'enquête qui a été diligentée, mais attendons qu'on publie toutes les observations qui ont été faites par la commission.
Voilà, du côté d'Isangi, on a déploré également plusieurs cas des morts, des personnes noyées. Alors, souvent, on attribue cela à la surcharge. On attribue ces cas des chavirements à la surcharge. Comment aujourd'hui on peut faire pour prévenir ce genre de situations?
Merci pour la question. Le problème fondamental, c'est le respect des textes. Le respect de prescriptions techniques qui sont comprises dans le code de la navigation. Si chaque armateur ou chaque personnel navigant respecte ce qui est écrit, je crois que nous allons limiter de manière drastique tout le cas que nous enregistrons de cas de naufrage.
Le respect de ce qui est écrit. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui doit être respecté exactement?
Ici, nous devons savoir qu'il y a deux critères fondamentaux. Le premier, ce sont les caractéristiques techniques de l'unité. Quand on construit une unité flottante, il en est de même de n'importe quel engin, le constructeur donne de limitations. On dit, votre bateau a la capacité de charger, par exemple, pour de baleinières, 20 à 40 tonnes. Et pour d'autres unités, on peut aller à 500, 1000, 1500 tonnes, voire même. Si vous ne respectez pas ça, donc vous êtes sujet à connaître des incidents ou accidents. Et deuxièmement, je pourrais dire, le deuxième critère, c'est lié à la voie de navigation qu'on emprunte. Là aussi, vous devez savoir, comme c'est exploité à l'état naturel, il y a deux conditions de navigation qui sont prévues. Si vous ne liez pas les deux pour le respecter, et vous êtes dans un camp comme dans l'autre, exposé à des cas de naufrage que nous déplorons vivement.
Voilà, donc il faut respecter il y a des caractéristiques techniques, vous avez dit. Une baleinière ne doit pas être chargée au-delà de 40 tonnes.
Ça dépend de la capacité nominale. Quand vous allez vers votre constructeur naval, vous lui dites, j'ai besoin d'un engin, par exemple pour le baleinier, j'ai dit c'est 20 tonnes. Ça, c'est la limitation.
Donc vous ne pouvez 20, pas... Vous avez dit 20 à 40.
20 à 40, parce qu'il y a aussi des baleinières de 40 tonnes.
Okay.
Donc, si vous avez une baleinière de 20 tonnes, il est impossible que vous pouvez charger plus de 20 tonnes que prévu. Si c'est une baleinière de 30 tonnes, vous restez dans les restrictions. De 40 tonnes. Il en est de même de barges. Quand vous dites votre barge est de 500 tonnes, vous ne pouvez pas la charger au-delà de 500 tonnes. Sinon, cette barge ne répondra plus aux conditions de navigation. Il est tout à fait normal que devant la tempête ou une situation que le commandant ne maîtrise pas, tout de suite qu'il se retrouve devant des situations telles que le bateau chavire.
Mais est-ce que tous les armateurs sont informés? Ils ont l'information sur les tonnages. Est-ce que c'est écrit même sur leur unité?
Oui, et c'est prévu dans la loi. Dans le code de la navigation, c'est prévu. C'est l'unique code que nous avons depuis 1966. Et jusque-là, ce code n'a jamais été changé. Quand vous venez pour solliciter les titres de propriété, de même ceux qui ont des voitures ont des cartes roses, pour les unités flottantes, il y a deux documents importants. Il y a le certificat du jaugeage. Le certificat de jaugeage est délivré par la direction de la marine sur base des éléments techniques que vous apportez. Que le constructeur a mis, que les bateaux ou la barge a telle longueur, telle largeur et tel creux, et il peut charger jusqu'à à telle tonne. Mais les inspecteurs de la marine descendent sur le terrain pour jauger cette unité. C'est à la fin de cette opération qu'on peut vous délivrer ce certificat de jaugeage. Le deuxième document, c'est le certificat de navigabilité. Donc, avant qu'un bateau quitte son port d'attache, il y a deux inspecteurs qui sont au niveau du commissariat fluvial, qui descendent et qui voient comment, si votre bateau est en état de naviguer, si le chargement est fait selon les normes, si vous avez tout le matériel de sécurité. Par matériel de sécurité, j'entends, vous avez des gilets de sauvetage au nombre de passagers qui sont sur le manifeste, si vous avez des extincteurs, si vous avez de motopompes, et c'est seulement à ce moment-là on peut vous donner le permis de sortie. Si ce n'est pas conforme, on doit vous garder à quai et vous ne quittez pas.
Et quel est le service qui délivre les certificats de navigabilité?
C'est la direction de la marine de voies navigables.
C'est elle qui donne, qui attribue aussi les certificats de jaugeage.
Ok. Ce sont les documents qui sont délivrés, mais à chaque fois, il y a des visites qui sont faites pour voir si vous répondez toujours aux normes. Et c'est dans le certificat de jaugeage qu'on délimite votre capacité de chargement. Et si vous allez au-delà, on peut vous refuser.
Voilà, nous avons deux auditeurs en ligne. Clément nous appelle de Kalemi, Ismaël et Talbumbashi. Vous voulez participer, appelez au 081 890 63 94. Clément, bonjour. Il n'est plus en ligne. Ismaël Mumpoi de Talbumbashi, bonjour.
Bonjour, Jody.
On vous écoute. Hein.
Oui, ma première préoccupation est de savoir dans quelles conditions on peut libérer un baleinier. Qui sont chargés strictement de libérer un baleinier et à combien d'heures ou à combien de temps et à quel moment, à quelle période la libération peut être favorable. Et j'ai demandé aussi à l'invité pour où je suis concerné dans ce sens que comment on peut vider la mentalité congolaise, par exemple, si on construit un stade de 15 000 personnes, on peut vendre le billet de 45 000 personnes. Soit dans un bateau, mais pourquoi par exemple le nombre de passants ou de voyageurs ne peut jamais être contrôlé juste au départ. Maintenant, dans le moyen de sauvetage, on avait dit dernièrement qu'on avait des gilets de sauvetage. Maintenant, parmi les 100 quelques essais qui étaient dépêchés dans la rivière, combien de personnes avaient ces gilets de sauvetage? Si il était ainsi et qu'il avait donné l'autorisation pourvu que le baleinier puisse quitter aussi les lieux à un autre. Pourquoi cette libération arrive toujours s'il y a cette noyade? Et cette noyade, c'est toujours la nuit plutôt que pendant la journée. Merci beaucoup.
Bien, merci. Gabriel Mukango, vous avez suivi. Qui donne l'autorisation à une embarcation de quitter le port d'attache?
Merci pour l'auditeur qui est à Lubumbashi. Il doit savoir que quand l'armateur a acquis tout le document qui lui permette d'exercer comme il se doit à son activité, il charge, il se présente au commissariat fluvial. Comme eux, ils sont à l'est, c'est au commissariat lacustre pour solliciter le permis de sortie. Et la délivrance de ce permis de sortie est conditionnée par une descente sur le terrain pour voir si le bateau est bel et bien en état de naviguer. et notamment contrôler, comme j'ai dit, il a soulevé ici le nombre de gilets au prorata de personnes qui sont embarquées. C'est lui qui vient, qui doit contrôler. Sur le manifeste, s'il a 100 personnes, on doit lui démontrer le 100 gilets. Et pas seulement pour le passager, mais même pour le personnel navigant. Donc, tout ce qui s'embarque doit avoir son gilet. Et ça, c'est au niveau du commissariat. La quiste pour eux qui sont au bureau supérieur. C'est seulement à la fin, si tout est conforme, le commissaire peut lui délivrer le permis pour quitter le port d'attache et aller à une destination que lui il a prévue. Mais il y a à manger à boire sur ce sujet, parce que les collègues qui sont du commissariat disent que ce genre-là quitte nuitamment pour échapper à tout contrôle. Ou très tôt le matin, quand ils savent que le bureau de l'État ne sont pas encore ouverts.
Sans avoir reçu l'autorisation.
Bon, sans avoir reçu l'autorisation. Je donne un exemple bénin ici. Il y a eu un bateau qui avait quitté Kalemi. C'était à Kalemi, non, à Kalundu. Le propriétaire, on lui a fait savoir que les inspecteurs, le chef de poste du commissariat, la KIS, avait dit qu'il y avait un mauvais chargement ou surchargement et on ne pouvait pas libérer les bateaux.
Quand il fallait de faire descendre certains, certains produits.
Transborder certains produits pour rester dans les normes. Lui, quand il est arrivé, il a commencé à harceler les gens, à injurier les gens. C'est jusqu'à ce que le lendemain, avant 8 heures, lui, il a donné l'ordre à son capitaine de quitter le port.
Sans l'autorisation du...
Sans l'autorisation. Et il n'a fait que quelques 100 mètres et le bateau a coulé. Les gens qui étaient à la rive ont vu comment le bateau coulait. Et voilà le sens du responsabilité parfois que nous avons. Et rien n'interdit de rester dans les normes. Respectez si on vous dit que vous ne pouvez charger que 200 tonnes, chargez les 200 tonnes qui vous sont demandées à la période qui est requise aussi. Parce que on ne charge pas de la même façon pendant toute l'année. Il y a des périodes de hautes eaux comme il y a des périodes de basses eaux. Mais si vous faites fi de cela, donc vous prenez entre vos mains cette responsabilité. Et les armateurs, parfois, ils veulent rentabiliser leur unité, nous comprenons bien, l'amorti, mais ils doivent savoir que, en le faisant, ils apportent aussi des avaries à l'unité. Si une unité qui est prévue pour prendre 200 et que vous allez tout le temps au-delà, il peut y avoir des avaries que vous, par exemple, vous n'êtes pas connaissez, vous ne saurez pas, mais le bateau peut fléchir, peut y avoir des torsions, qui fait que sur une longue, la période de durée de vie de votre unité, pour le baleinier, le minimum c'est 3 ans, max on peut aller à 5 ans, parce que c'est en bois non traité. Mais si vous ne prenez pas des précautions, vous allez voir que votre baleinier ne sera plus opérationnel avant les 3 années qui sont prévues, faute de, de respect de chargement. Donc, je disais à l'auditeur qui donne l'ordre. L'ordre est donné par le préposé, celui qui est au commissariat. Mais
le commissaire fluvial.
Le commissaire fluvial ou l'AKIS. Nous demandons la conscience de ce préposé pour voir si réellement l'unité qu'il est en train de libérer répond aux conditions. Mais au cas où l'armateur...
Parce que l'armateur peut le corrompre, il dit, bon, tu peux libérer mon unité, et puis voilà, il y a complaisance, et puis on laisse passer.
Il laisse passer, il part. Mais ce qui est important, si on doit savoir, quand il a échappé au premier poste, il est parti sans voir le document, mais il va aller accoster quelque part pour décharger. Mais le commissaire qui est là-bas a l'obligation de dire, vous venez de quel coin? Quels sont les documents qui ont été délivrés? Est-ce que vous avez le visa de départ? Et s'il n'y en a pas, il ne peut pas autoriser ce bateau de quitter son poste à lui. Mais curieusement, les bateaux longe tous les cours d'eau, il passe à travers les différents postes.
On laisse un peu d'argent ici, oui, on laisse là-bas,
sans
et puis
que,
voilà.
On la raisonne, qu'on le mette sous chaîne, en attendant qu'il puisse se mettre en ordre vis-à-vis de la législation. Donc ce sont des cas déplorables, mais ça entre dans les cas de conscience de tout un chacun.
Navigation, comment prévenir les cas de naufrage? Pichu Chimanga et Takisangani Malemba nous appelle de Kinshasa.
Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Comment prévenir les cas de naufrage? Pichou, vous êtes à Kisangani, bonjour.
Oui, bonjour. J'ai une unique question à poser. Avant d'entamer ma question, je vais d'abord compléter l'invité. Il a parlé des différentes mesures de prévention. Il a cité le nombre de tonnes, nombre de personnes, qualité de l'appareil. Mais moi, je voulais aussi ajouter la disposition des gilets de sauvetage par personne, afin d'éviter. Parce qu'en cas de naufrage, quelqu'un qui a un gilet peut tout ça se sauver en attendant que le service de sauvetage arrive. Mais en cela, je pose maintenant mon unique question. Pourquoi ils ne disposent pas un service technique afin de vérifier régulièrement l'état des moteurs avant le déplacement de tout bateau, soit tout moteur? C'est un peu ça. Merci beaucoup.
Bien. Malemba de Kinshasa, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à l'invité.
On vous écoute. Hein.
Oui, ma préoccupation est la suivante. L'invité a parlé des bateaux qui quittent Nitama. Et dernièrement, il y a ici à Kinshasa l'interdiction de naviguer la nuit. Je ne sais pas. Ici à Kinshasa aussi, c'est le cas. Parce qu'il y a le bateau qui quitte pendant la journée. Il y a les techniciens des commissaires fluviales qui sont dans les différents ports. Avant de quitter, les commissaires arrivent, les services de la marine. Quand ils arrivent pour vérifier les sauvetages, il y a les gérants qui passent des coups de fil à tout moment. Il y a aussi leur appréciation. Les documents qui sont livrés par le commandant et les gérants du bateau sans être suivis, par exemple, du tonnage. Normalement, je propose à l'invité qu'il y ait des commissaires lors du chargement, parce que nous partons à la douane pour prendre l'autorisation aussi et déclarer le nombre de tonnages. Tout ça est déclaré verbalement sans les techniciens sur place. Oui. C'est un peu ça ma préoccupation. Je suis ex-gérant du bateau.
D'accord, merci Monsieur Malemba. Oui. Qui nous dit qu'il n'y a jamais eu de vérification. On déclare tout simplement qu'on a chargé autant, mais qui vérifie? Et c'est ça le problème. Laguilois, vous êtes à Kalemi, bonjour.
Bonjour, je suis Daniel Katama et bonjour à l'invité.
Quelle est votre question?
Merci beaucoup. Je présente d'abord mes artistes de la grande équipe de l'Ocapie Service. Je pense, j'ai un témoignage, je dois continuer sur ma déduction, vu le sujet qui est très intéressant vis-à-vis de nous, la population que nous sommes. Mais c'est sûr, quand vous arrivez au port, par exemple, dans certains coins, vous allez vous rendre compte de tous ces services statistiques qui sont là-bas. Au moins que le bateau a déjà rempli ses tonnages normal, ou ses tonnages normaux, mais vous allez voir, tous les chefs de service obligent au capitaine de pouvoir disponibiliser de temps, de place pour que ces gens puissent envoyer leurs marchandises, leurs personnes. Mais après un moment donné, vous allez voir, il y a naufrage. Et quand il y a naufrage, jamais un jour vous n'allez pas voir le manifeste. Oh, le manifeste ne se laisse pas voir. Comment se fait-il les agents qui devront respecter, ils devront faire respecter la loi de la navigation? Et ce sont les gens qui sont les premiers violeurs. C'est que moi, je m'étonne, mais J'ai félicité les autorités du pays de ce point quoi on s'est arrêté certains officiers de maritimes suite au naufrage. Et je dois demander à l'invité aussi une petite question avant de terminer mon intervention. Est-ce que et quelles sont les obligations pour ces bateaux-là qui naviguent dans les eaux, par exemple du lac, comme le cas du lac Tanganyika?
Oui.
Et ces bateaux n'arrivent pas à accoster pendant les heures que l'État congolais a précisé. Vous voyez le bateau fait naviguer ou accoster plutôt à 22 heures. Tout dépend de l'arrivée du bateau. On n'arrive pas à respecter les normes.
D'accord. Merci. Merci Laguilo. Anthony, vous êtes à Guémena, dans la province de l'Équateur. Bonjour.
Oui, bonjour.
Quelle est votre question, Anthony?
Oui, c'est pas vraiment une question, c'est une préoccupation, parce que je pense que tous les intervenants qui sont passés devant moi ont assez dit que nous sommes presque dans la même voie. Moi, ça m'étonne que l'invité puisse dire il y a un armateur qui a chargé les bateaux, il donne l'ordre et les bateaux puissent quitter sur la baleinière. Et à 100 mètres, la baleinière coule. Bon, ça m'étonne que la force reste à la loi. Et dans tous les ports, il y a presque les unités marines qui sont là-bas. Et ils sont bien dotés peut-être des canons rapides, tout ça. Pourquoi, quand un bateau quitte, sans pour autant qu'ils aient avoir reçu l'ordre de quitter, ils ne peuvent pas se poursuivre pour aller les arrêter et attendre seulement jusqu'à ce que les bateaux coulent et qu'il y ait des pertes en vie humaine. C'est que c'est l'État qui est responsable de tous ces dégâts qui se passent sur les rivières et les fleuves congolais. Donc, c'est un peu ça.
D'accord, merci. Christian Mayembe, vous êtes à Kalemi. Bonjour.
Bonjour, je dis bonjour, monsieur le auditeur de la radio.
Quelle est votre question, Christian?
Bon, ma question, ça pose aussi sur les inspecteurs fluviaux que nous voyons ici à Kalemi. Parce que plus souvent, nous assistons à des catastrophes. On manque voilà, le contrôle de ces inspecteurs-là, messieurs, je dis.
Il y a votre petite fille qui fait du bruit, là.
Vous remarquez que avant que les bateaux quittent les ports ici,
oui,
il n'y a pas le contrôle. Vous remarquerez aussi, après tout ça, après avoir payé, je disais qu'on a payé tous les frais, et les bateaux partent sans contrôle, sans vérifier les tonnages, ce qui nous inquiète beaucoup. On a déjà payé, on arrive là-bas, on paye les frais, et après quoi, on vous dit allez, sans vérifier les tonnages. Et je voulais aussi demander à l'invité de nous éclaircir des bilans de l'ancien naufrage de décembre ici, du bateau Mutambala. Nous qui sommes ici présents, nous savons qu'il y avait plus de 250 morts. Mais même les médias, même les ministères, même les gouvernements, il n'y avait aucun éclaircissement sur les bilans. Maintenant, je vais aussi demander, est-ce qu'il peut nous donner quel est le bon bilan et où nous en sommes avec ces problèmes-là? Je vous remercie, Jody.
Merci, Christian. Rachel de Kinshasa, bonjour.
Allô, bonjour.
On vous écoute, Rachel.
Allô.
Oui, on vous écoute. Dommage, elle va sûrement nous rappeler. Monsieur Gabriel, vous avez suivi les différentes questions des auditeurs, vous avez la parole.
Merci, je vais de manière ramassée répondre aux préoccupations de tous les auditeurs. De prime abord, l'auditeur qui a dit comment je donnais l'exemple que l'armateur a...
Sans autorisation,
oui, oui.
Il a donné l'ordre à son commandant de partir et à 100 mètres, l'unité a coulé. Pourquoi on n'a pas suivi pour l'arrêter? Parce qu'il n'a pas respecté la loi.
Je prie ça comme exemple pour stigmatiser le comportement anormal des armateurs. Ça nous a été rapporté par notre directeur qui est au BIEF supérieur. Quand nous voulions savoir les conditions de ce naufrage, et c'est ce qu'il nous a dit, et c'est ce qui a été consigné dans le PV d'audition du commissaire lacustre. Vous savez que le bureau de l'État ouvre les portes généralement vers 7h38. Mais ceux qui naviguent savent que la plupart des bateaux quittent leur port d'attache ou quand il a fait une escale technique, ou de nuit quitte vers 5 heures du matin. Donc vous conviendrez avec moi qu'à cette heure-là, il n'y a personne. Il est bien vrai, devant la recrudescence de cas d'accidents de navigation, Son Excellence, Monsieur le Ministre de Transport et Voies de Communication, a pris un arrêté pour interdire toute navigation de nuit. Parce qu'il s'est avéré que, lors des enquêtes, la plupart des cas d'accidents survenaient la nuit. Et on n'avait pas la maîtrise de tous les éléments. C'était pour contraindre le navigateur de ne pouvoir naviguer que le jour pour que nous puissions limiter le cas d'accident.
Malgré ça, il y a certains récalcitrants qui ne respectent
jamais.
C'est ce
que je dis, c'est dans la conscience, dans la gouvernance, dans le code d'éthique de bonne conduite que nous devons aller puiser pour sensibiliser ces gens-là au respect.
Et tant qu'il y a l'impunité, on ne punit pas. Bon, les choses vont évoluer comme ça.
Oui, mais le problème ici, il faut voir. Le monsieur qui a fait fi de toutes les observations qui lui ont été faites, il prend le large et il y a un accident. Si jamais il coule avec son bateau, généralement il s'échappe et il est dans la nature. Ce sont les autres. Mais lui-même, il prend la fuite et on ne met jamais la main sur lui. Évidemment, le propriétaire du bateau peut être arrêté pour question de responsabilité civile. Il doit répondre. Mais c'est ce que je dis, les propriétaires de bateaux doivent aussi se professionnaliser.
D'accord. Donc il y a beaucoup de, disons, des commerçants. Il n'y a que des commerçants, il n'y a pas de professionnels.
Il n'y a pas de professionnels, ils doivent se professionnaliser. On ne peut pas entrer dans un secteur, dans une profession comme ça, sans qu'on ait des notions.
D'accord. Pichou nous dit, de Kisangani dit, quel est le service chargé de vérifier l'état du moteur?
Oui.
D'une unité.
Il y a un service, comme je dis. La direction de la marine, au travers de ses différents postes, procède aux enquêtes, aux visites, pour voir si votre moteur répond. Et il en est de même de toutes les parties de l'unité. Mais vous-même, vous avez un mécanicien aussi, vous devez savoir que le moteur que j'ai là fume ou demande une révision. Donc, vous devez vous mettre à votre place. Mais comment arriver à dire que ce bateau a chargé autant? Il est bien vrai que les personnels qui sont au niveau de commissariat fluviaux doivent aussi de personnel qualifié pour pouvoir voir. Parce que sur un bateau, nous avons deux limites. Il y a le tirant d'eau lèche quand le bateau n'est pas chargé. Il y a le tirant d'eau quand le bateau est chargé. Et sur les côtés de mirail de bateau, vous avez des échelles, une gradation en décimètres, qui dit que quand vous avez un tirant d'eau, donc l'enfoncement de votre bateau dans l'eau est de 1,50 m, cela correspond à autant de tonnage. Donc, on peut bien dire que vous avez chargé plus. Et généralement, si vous avez vu, il y a la marque du franc-bord sur le bateau qui permet de dire que vous ne pouvez pas aller au-delà parce qu'il doit y avoir une réserve de flottabilité. Un bateau qui est chargé, s'il dépasse la marque du franc-bord, n'a plus cette capacité. Quand il y a le vent, la tempête, et carrément il coule devant des vagues de 1 mètre, par exemple, d'auteur. Mais s'il le respecte, à ce moment-là, même s'il est dans une situation difficile, comme le bateau n'est pas rempli à 100%, le bateau peut respirer et il peut avoir la manœuvre de flottabilité. Mais généralement, ce n'est pas le cas. Vous voyez le bateau qui navigue, quelqu'un qui est à bord, il met seulement son doigt, il touche le plan d'eau.
Oui, surtout avec les baleinières.
Touche le plan d'eau.
Voilà. Et puis Malemba a travaillé dans ce secteur. Il y a Kinshasa. Il dit qu'il n'y a jamais eu de vérification lors du chargement. Vous venez, vous voyez, l'armateur vient avec le manifeste. Il dit voilà, j'ai chargé autant, mais personne ne vérifie.
Bon, ce qu'il dit, il y a une partie de vérité parce que je ne sais pas contrôler ses propos. Mais ce qui est vrai, quand vous venez avec votre manifeste, vous venez avec le document que vous avez reçu de la DGDA. Vous venez avec ces documents dans lesquels on dit que vous avez telle quantité de marchandises. Si vous avez trompé, il n'y a que votre conscience. Mais quand vous chargez, l'inspecteur de la navigation peut voir la façon dont vous avez chargé. Dans les cales, est-ce que vous avez ponté au-dessus donc de votre barge? Il voit. Et il voit l'assiette du bateau. Est-ce que le bateau est tendance à s'incliner de côté, bâbord ou tribord? Et il voit, est-ce que vous avez respecté la marque de frabord? Donc, et c'est lui qui dit que, puisque votre bateau a l'enfoncement qui va jusqu'à telle profondeur, c'est que vous avez un tonnage qui est supérieur. Donc, je vous interdis de quitter le port. Vous devez
décharger
une bonne partie de votre marchandise pour alléger le bateau de manière à ce que le bateau réponde aux conditions.
Et même les passagers, on peut décharger aussi certains passagers quand il y a...
Mais c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, ces bateaux, la plupart ne sont pas prévus pour transporter les personnes.
C'est on peut les débarquer.
On peut bien le débarquer. Parce que ce sont des cargos. C'est maintenant que les autorités du pays ont pris l'engagement de réhabiliter Kokolo avec la SNTP et d'autres bateaux qui suivront pour que le transport de passagers se fasse normalement et dans des conditions décentes.
Alors, un auditeur nous a dit qu'il y a la complicité des agents qui travaillent à la direction de la marine, commissaires fluviaux. Ils sont complices parfois, ils ont même des quotas. Lorsqu'on charge le bateau, on leur réserve une place où ils peuvent aussi placer leurs marchandises. Et bon, voilà, il y a cette complaisance-là. Et tout ça, c'est, les conséquences sont désastreuses, monsieur.
Oui, je conviendrai avec eux, parfois ils subissent des pressions. De pression, lui, il a chargé normalement, mais on vient lui imposer d'ajouter deux personnes. Ça arrive. Surtout quand vous êtes à l'intérieur, vous avez ce genre de pression. Moi-même, parfois, quand je suis en mission, quand on voit un bateau, tout le monde veut s'embarquer. Il y a des autorités politico-administratives qui s'en mettent avec des feuilles de route pour dire, vous prenez tel monsieur. Mais je refuse, je reste catégorique si je ne peux pas. Si je peux lui rendre service, j'accepte. Mais je ne peux pas lui faire plaisir pour que, en cas d'accident, que ça retombe sur moi. Donc, le commandant du bateau, le gérant, doivent avoir la personnalité, de manière polie, d'expliquer à ces personnes que j'ai déjà pris autant de personnes, je ne peux pas aller au-delà. Ils le disent poliment, je crois pas qu'on va le tuer. Mais s'ils font, ils se courbent devant les sollicitations de ces autorités, ils embarquent encore en plus de ce que lui l'a déjà chargé, et c'est tout à fait normal qu'il y ait un dépassement et que tout de suite des accidents arrivent.
Voilà, il y a un auditeur qui vous a demandé quel est le bilan du naufrage qui était survenu au lac Tanganyika, de la baleinière, je crois, Mutambala, ou quelque chose comme ça. On parlait des 139, lui dit et ils savent que c'est au-delà, c'est autour des 200.
Bon, je ne suis pas habilité, je n'ai pas été membre de cette commission.
Oui.
Et dans l'introduction de cette émission, j'avais dit qu'il y a une commission qui n'a pas encore divulgué son rapport.
Ouais.
Bon. Donc, je ne peux pas. Ah, je sais qu'il veut bien savoir combien, mais qu'il s'en tient à ça. Mais eux aussi doivent prendre leurs responsabilités. Quand un bateau est plein, autant rater ce voyage, attendre le prochain, au lieu d'insister que nécessairement on l'embarque.
Mais comment savoir que ce bateau est plein? Parce que le passager, lui,
mais oui.
Il s'est pas contrôlé, on a chargé jusqu'à quel tonnage,
je donne un exemple, Benet. À bord du bateau de la SCTP, par exemple Kokolo, vous avez des cabines pour passagers. On peut dire que j'ai autant de cabines qui correspondent à autant de passagers. Je dis ici, ces bateaux font le cargo. Donc, les personnes qui les transportent se mettent à mieux sur le marchandise et n'importe où. Mmh. C'est pas si vous avez vu comment ils naviguent. Même des conditions sanitaires sont pénibles. Donc, à vue d'œil, lui, c'est voir que non, je vois qu'il y a déjà assez de personnes, moi, je ne peux pas.
Oui.
Parce qu'il est hacké. Mais s'il lui dit non, je ne peux pas rater cette occasion, coûte que coûte. Bon, puisque Dieu est congolais, il écoute nos prières, et il prend ce risque. Il dit Dieu, Nzambakosala, et il s'embarque. Parce que nous, nous voulons braver le danger, croyant que nous avons suffisamment de foi pour échapper, mais c'est technique. Et si nous parlons technique, il n'est pas question seulement de conviction religieuse.
Voilà, donc on retient pour prévenir les cas de naufrage, il faut répondre aux conditions techniques, et il faut avoir les documents, les certificats de jaugeage, les certificats de la navigabilité délivrés par la direction de la marine, et les bouées, il faut aussi prévoir les bouées des sauvetages, et surtout respecter la limitation des jaugeages, de tonnage.
Ça, c'est absolument important. On ne peut pas embarquer plus de personnes qui a des bouées. Mais généralement, les contrôles doivent être faits au départ. Voir que vous avez le manifeste qui reprend tant de personnes et vous exhibez autant de bouées. Bon, il y a aussi la tolérance parfois. Mais nous devons être regardants et être sérieux dans le travail que nous faisons pour éviter les cas de naufrage que nous déplorons.
Voilà, il y en a de plus en plus. Il y a eu même à Kisangi, je crois, en province orientale, il y a eu également... Donc il y en a plusieurs à travers le pays, des cas de naufrage.
Mais c'est la conscience. Si nous restons dans le nord, je crois que nous allons éviter. Bon, il est bien vrai qu'on ne va pas éliminer les accidents, mais nous allons réduire de manière sensible le cas d'accident. Ce qui peut être évité, si nous respectons les normes techniques, nous allons les éviter. Mais ceux qui sont naturels, par exemple, vous êtes surpris sur le chenal par une tempête et vous dérivez, bon, on peut comprendre. Mais si nous voulons respecter toutes les prescriptions, on va éviter sensiblement les cas d'accident.
Bien, Gabriel Mokango, directeur technique à la Régie des voies fluviales, merci.
Donc, c'est moi qui vous remercie, tous les auditeurs de Radio Capi Service.